Vous écoutez, on lit pour vous.
Blâmer le Canada. Vous êtes sérieux, là? Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 14 juillet 2025 dans La Presse. Quel travail ingrat que celui d'employé de l'ambassade du Canada à Washington. Le président des États-Unis est en guerre contre votre pays. Il est imprévisible et colérique. Et vous, en toutes circonstances, vous devez garder votre calme. Ne jamais dire un mot plus haut que l'autre. Demeurez courtois, même quand on cherche à vous humilier. Un peu comme si, dans la cour d'école, un fier à bras vous crachait au visage chaque jour sans que vous puissiez réagir autrement qu'en souriant. J'y pensais la semaine dernière en voyant la réponse d'une politesse hallucinante de l'ambassade du Canada en réplique à une lettre délirante d'élus américains. Dans cette lettre expédiée à l'ambassadrice canadienne Kirsten Hillman, une demi-douzaine de républicains se plaignent de la fumée des incendies de forêt au Canada et exige que le gouvernement y remédie. Je peux vous assurer que le Canada prend très au sérieux la prévention, la lutte et l'atténuation des incendies de forêt. Je peux confirmer que la lettre a été reçue par l'ambassade et transmise aux organismes canadiens concernés. Nous y répondrons en temps opportun, a affirmé une porte-parole de l'ambassade du Canada à Washington à mon collègue Éric-Pierre Champagne. Notez bien que je ne critique pas la teneur de cette réponse. Avec Donald Trump à la Maison-Blanche, si vous n'êtes pas assez poli, Dieu sait quelle nouvelle menace il va brandir contre votre pays. Mais le délire des élus républicains appelle une autre réponse. Moins diplomate, celle-là. Vous me permettrez donc, comme je ne suis pas ambassadeur, de dénoncer la bêtise de cette sortie publique sans mettre de gants et d'expliquer qu'il s'agit d'une véritable insulte à l'intelligence. Comment qualifier autrement une lettre qui blâme le Canada, mais ne contient pas un mot sur les changements climatiques? Il existe depuis longtemps un consensus scientifique sur le fait qu'il y a davantage de catastrophes naturelles, y compris des incendies de forêt, et que leur intensité va en augmentant en raison des changements climatiques. Mais Peter Stauber, un élu du Minnesota, qui a signé la lettre en question, a plutôt dit vouloir exhorter le Canada à améliorer sa gestion forestière. Nos communautés ne doivent pas supporter le coût de leur négligence, a-t-il ajouté. Négligence? Vous êtes sérieux, là? Très chers élus républicains, préoccupés par les feux, votre lettre relève de l'aveuglement volontaire. Vos citoyens sont incommodés par la fumée des incendies qui ravagent notre pays? Ça se comprend. Et sachez qu'on fait toujours tout ce qui est en notre pouvoir, de ce côté-ci de la frontière, pour prévenir les feux et lutter contre ceux qui font déjà rage. Que diriez-vous, pour votre part, de vous regarder dans le miroir? Sur le plan des émissions de gaz à effet de serre par habitant, votre pays se classe au premier rang. Et lorsqu'on calcule les émissions totales, il est deuxième, derrière la Chine, un pays de plus de 1,4 milliard d'habitants. Alors, ce que vous faites, en blâmant le Canada. C'est un peu comme si quelqu'un décidait de vider ses poubelles à longueur d'année dans la cour de son voisin pour ensuite se plaindre, avec arrogance, d'une odeur intolérante qui provient de chez lui. Et ensuite, exiger qu'il règle ce problème. Vous êtes des politiciens. Vous devez rendre des comptes à vos citoyens. Mais vous avez un fâcheux problème, car vous niez le phénomène qui fait empirer la situation. Votre sortie publique est un effort désespéré pour prouver que vous tenez compte des critiques de ceux qui ont voté pour vous et qui, espérez-vous, vont continuer à le faire, et les convaincre que vous faites des gestes décisifs. Mais c'est le contraire qui est vrai. Non seulement les républicains au pouvoir à Washington font partie de la minorité de climato-sceptiques aux États-Unis, mais ils se démènent également avec plus d'ardeur que jamais pour freiner la lutte contre les changements climatiques. En mars 2025, le New York Times résumait ainsi ce qui est en train de se passer à Washington. En quelques semaines, le président Trump a gravement endommagé la capacité du gouvernement à lutter contre les changements climatiques, bouleversant la politique environnementale américaine par des mesures qui pourraient avoir des conséquences durables pour le pays et la planète. Avec une série d'actions qui ont repoussé les limites du pouvoir présidentiel, M. Trump a vidé de leur substance les efforts fédéraux en matière de climat, annulé les réglementations visant à limiter la pollution et donné un coup de pouce majeur à l'industrie des combustibles fossiles. Ça s'est poursuivi depuis et ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Tenez, on apprenait cette semaine que le département américain de l'énergie vient de recruter 3 rares scientifiques américains climato-sceptiques. Dans ce contexte, la feinte indignation des élus américains qui blâment le Canada leur donne simplement l'air de mauvais acteurs qui jouent dans un navet. J'ajoute qu'elle est particulièrement indécente au moment où des milliers de personnes de ce côté-ci de la frontière doivent être évacués en raison des feux. Je n'imagine pas nos élus critiquer les politiciens américains la prochaine fois qu'un des États sera frappé par des incendies dévastateurs et que la fumée se rendra jusqu'au Canada. J'ose croire qu'ils ont trop de respect pour nos voisins pour faire ça. Voilà. Si les diplomates de l'ambassade du Canada n'avaient pas à faire preuve de diplomatie, c'est probablement ce qu'ils répondraient aux élus républicains. Et peut-être aussi qu'ils citeraient, en terminant, les mots d'un des grands présidents que le Parti républicain a donné aux États-Unis, Abraham Lincoln. Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. C'était « Blâmer le Canada, vous êtes sérieux là? » Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 14 juillet 2025 dans La Presse.
Georges Aubin, spécialiste de l'histoire des patriotes, est décédé. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 29 juin 2025 dans Le Devoir. Son travail d'érudit a permis de rendre accessible une large partie des écrits des patriotes de 1837-1838 en particulier de la correspondance de Louis-Joseph Papineau. Ancien professeur de latin, Georges Aubin se définissait comme chercheur en histoire plutôt qu'historien. Il est décédé le 28 juin 2025 à l'âge de 83 ans, après un demi-siècle de recherche dans les archives, les journaux, les correspondances, a confirmé sa famille. Georges Aubin a publié plus d'une centaine de livres, dont une bonne trentaine consacrés à l'univers des patriotes. On lui doit notamment d'avoir codigé, en 6 volumes, la correspondance de Louis-Joseph Papineau et de presque tous les membres importants de cette illustre famille. De petite taille, la chevelure abondante, l'œil vif, la lèvre supérieure cachée par une moustache blanche, Georges Aubin était considéré par ses pairs comme un modèle de détermination face au travail patient et minutieux qu'exige le décryptage de manuscrits anciens aux archives. Il était un genre d'érudit, une sorte de moine du 21e siècle, tout à fait infatigable, considère Yvan Lamonde, professeur émérite de l'Université McGill. C'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui accès à autant de textes de Papineau et des patriotes, explique le professeur. C'est le meilleur connaisseur de Papineau que nous avons eu. Il aimait fouiller et éditer ses trouvailles, mais il n'aimait pas rédiger des introductions. À la suite de recherches qui l'ont conduit à séjourner un temps en France, Georges Aubin a notamment détruit le mythe voulant que Papineau fût un franc-maçon. Même la loge maçonnique à laquelle Papineau aurait appartenu était une invention, a montré Aubin. Pour lui, les textes devaient parler par eux-mêmes, quitte à ne publier que des glanures, des bribes. Il laissait le lecteur se faire une idée à partir des documents, par exemple au sujet des viols perpétrés lors de la répression de 1837-1838 par la soldatesque. En 2002, cet historien autodidacte fait paraître la correspondance complète entre Louis-Hippolyte Lafontaine et Robert Baldwin, les deux figures principales du régime du Canada de l'Union qui se mettent en place après l'écrasement des révolutions de 1837-1838. On doit aussi à Georges Aubin d'avoir exhumé de l'oubli les récits de voyage de Pierre-Gustave Joly au Moyen-Orient. Cet homme, père du premier ministre québécois Henri-Gustave Joly de Lotbinière, est un des pionniers de l'histoire de la photographie. Il fut le tout premier, en 1839-1840, à photographier l'acropole d'Athènes, les pyramides d'Égypte et la Terre Sainte. Georges Aubin avait trouvé en Renée Blanchet, sa compagne, une chercheuse tout aussi déterminée que lui. Ensemble, ils ont conduit au galop et au trot nombre de projets d'édition. Ces dernières années, plusieurs de leurs livres étaient publiés à l'enseigne de leur entreprise, Aubin Blanchet, Recherche historique. Il était très fier d'avoir publié plus de 100 livres, note Yvan Lamonde. Pourvu qu'il y ait au bout de la route la promesse d'un document qu'il ne connaissait pas, Georges Aubin sautait volontiers dans sa petite voiture japonaise. Il avalait sans compter des milliers de kilomètres, partant en chasse de documents aussi bien à New York qu'à Sudbury. Il profitait volontiers des belles journées d'été pour travailler au frais, dans les salles de consultation de centres d'archives. À la saison froide, il se réfugiait souvent au Mexique pour annoter les quantités inouïes de documents manuscrits qu'il avait compulsés en cours d'année. Son travail a été plusieurs fois récompensé, notamment par le prix Percy W. Foy de la Société historique de Montréal et le prix Rodolphe Fournier de la Fédération Histoire Québec. En 2004, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal lui a décerné le titre de Patriote de l'année. Né en 1942 à Saint-Félix de Valois, Georges Aubin obtiendra, à l'Université de Montréal, une licence en pédagogie. Il avait d'abord fait des études classiques au séminaire de Joliette, 1954-1962. Là, Il s'était lié d'une vive amitié avec l'écrivain Yves Beauchemin. C'était un rat de bibliothèque, se souvient ce dernier. Tous les deux, nous avions la passion de la musique classique et nous aimions rire. Georges s'est intéressé à l'histoire plus tard, à partir du moment où il a été professeur. Georges Aubin avait permis à Yves Beauchemin de récupérer In Extremis à l'occasion de la destruction d'une partie de l'enceinte de la prison des Patriotes au pied du courant, des pierres de taille grise qui cernaient ce lieu où furent pendus plusieurs Patriotes en 1839, dont Chevalier de Lorimier et Charles Hindenlang. Pour lui, qui aspirait à une sorte de libération par le savoir, par l'histoire, le symbole de cette prison était important, affirme l'auteur du Matou. C'était Georges Aubin, spécialiste de l'histoire des Patriotes et décédé. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 29 juin 2025 dans Le Devoir.
Avez-vous déjà vu un nid de colibri? Un texte d'Alexandre Shields, paru le 7 août 2025 dans Le Devoir. Le colibri à gorge rubis est le plus petit oiseau qu'on puisse observer au Québec, lui qui pèse à peine 3 grammes. Si l'espèce est régulièrement aperçue et photographiée en saison estivale, il est très rare de pouvoir en faire autant avec son nid, qui est aussi minuscule que bien camouflé. Le Devoir a toutefois eu la chance d'observer un nid de cet oiseau, bien dissimulé au creux des branches d'un arbre sous le couvert de ses feuilles. Une femelle colibri s'y trouvait d'ailleurs alternant entre la présence au nid et des explorations aux alentours, probablement en quête de nourriture. Si le nid en question se confond aussi bien dans le décor naturel, c'est en raison des techniques de construction qui incombent principalement à la femelle. Ce nid est une coupe de moins de 3 cm de diamètre, composée d'éléments végétaux et dont l'intérieur est garni de duvet végétal. Afin d'assurer le camouflage de celui-ci, une mesure de protection contre les prédateurs, l'extérieur est tapissé de lichen. La femelle ramasse ainsi de petits morceaux de lichen et les fixe sur la surface extérieure du nid, lui donnant l'aspect d'un nœud de branche, peut-on lire sur un site du gouvernement fédéral. Au Canada, la période de nidification débute entre la fin mai et le début juin et se termine à la fin août, selon la région. Après cela, les colibris entament une impressionnante migration qui peut aisément dépasser les 3500 kilomètres. Si certains vont s'installer dans le sud des États-Unis pour la saison hivernale, d'autres peuvent se rendre jusqu'au Mexique, voire jusqu'en Amérique centrale. Même si cette route migratoire est semée d'embûches, destruction des milieux naturels nécessaires pour l'alimentation, impact de la crise climatique, collision avec les immeubles, etc., l'espèce se porterait bien selon les données disponibles. À défaut de l'observer dans son nid cet été, on peut toujours tendre l'oreille, puisqu'on entend habituellement le colibri arriver en raison du son de ses ailes, qui battent à un rythme de 55 à 75 fois par seconde, ce qui donne l'impression d'un bourdonnement d'insectes. C'était « Avez-vous déjà vu un nid de colibri ?» un texte d'Alexandre Shields paru le 7 août 2025 dans Le Devoir.
Le champignon de la guerre. un texte de Jean-François Nadeau, paru le 8 septembre 2025 dans Le Devoir. Quand je suis passé à son atelier le printemps dernier, je n'ai pas pensé qu'il était là, ce monument vivant qu'est Pépé. Dans l'entrée, j'ai jasé un moment avec son fils Paolo. Moi qui passe ma vie à noircir du papier voué à jaunir, j'admire ceux qui, comme lui, font de leurs mains des choses destinées à durer. Après un moment passé à jaser, son fils me dit « Mon père aimerait bien te dire bonjour. »« Ah, mais moi aussi. Il est chez lui ?»« Mais non, il est ici, dans l'atelier, » me répond Paolo. « Occupé à souder, comme d'habitude. Va le voir. » Je suis donc entré dans l'atelier. Tout de suite, l'odeur de la limaille de métal m'est montée au nez. J'ai contourné une fraiseuse, puis un tour. Il était affairé devant un gabarit, tout courbé, une torche à la main, les yeux protégés par des lunettes rondes qu'aurait pu porter John Lennon. Lorsqu'il m'a vu, il s'est arrêté. Il a souri. Puis, on a parlé 2 heures. Pépé aura 88 ans dans quelques jours. Au début de l'été, il s'est cassé le bassin, une mauvaise chute. Pas la première fois. Là, il ne s'est pas manqué. Tu n'as pas idée comme j'ai eu mal. À cause de cette chute, Pépé n'a pratiquement pas bougé de l'été. Enfin, pas comme il l'aurait souhaité. De quoi tuer un homme qui, comme lui, n'arrête d'ordinaire jamais. Quand je l'ai revu la semaine dernière, il était heureux. Il se déplaçait désormais sans l'aide d'un déambulateur. Il souriait. Je lui ai demandé pour la forme comment il allait. Mal, très mal, parle-moi-en pas. Je croyais qu'il me parlerait des suites de sa chute ou du fait que, si les nouvelles mesures en matière d'immigration avaient existé en son temps, il ne serait pas là. Mais non. Pépé m'étonne toujours. Pourquoi ça va pas bien? Écoute, les tomates poussent pas. C'est terrible. Il n'y a pas d'eau. Il pleut pas. Pire que ça, pas un champignon, à cause de l'eau aussi. Peux-tu croire ça? D'habitude, j'en cueille des sacs pleins. À toutes mes places dans le bois, il n'y en a pas cette année. J'en ai tellement cueilli des champignons, si tu savais. Une fois, un grand chef m'avait offert de m'en acheter. Le lendemain, je lui en avais trouvé 50 kg dans les bois. T'imagines? 50 kg de bons champignons. J'en avais pour 1 000 $. J'ai préféré lui échanger contre un bon repas pour tous mes employés. C'était formidable, ce souper. Les champignons, dit-il, c'est un des plus grands plaisirs de sa vie. Jusqu'à l'âge de 20 ans, quand je vivais en Italie, j'en cueillais, puis je les vendais. Je me faisais un peu d'argent, comme ça. J'ai toujours cueilli des champignons. Là, c'est pas bon pantoute. J'ai jamais vu ça. On le voit bien que le climat change. Non seulement l'eau est rare cet été, dit-il, mais elle n'est pas bien bonne. Les plantes le savent, l'eau du robinet, elles n'aiment pas ça. L'eau est changée. C'est plein de cochonneries. Nous, on le sait pas, on la boit. Mais les plantes le savent. Il évoque ensuite son village natal, Rovetta, en Italie, dans la province de Bergame. J'ai envie de pleurer quand je pense à mon village. C'est vrai, les yeux de Pépé soudain sont tout mouillés. Il respire un bon coup, il ravale ses émotions. Je parle un peu, le temps de le laisser respirer. L'Italie te manque, Giuseppe? Non, c'est pas ça. Mon village, vois-tu, il est connu parce que c'est un des endroits où des Italiens ont massacré d'autres Italiens, à la fin de la guerre. Un massacre. Et tu as vu ces gars être massacrés? Oui, j'étais là, debout, dans la rue, devant le cimetière. J'avais 6 ans. Je m'en souviens très bien. Je ne vais jamais oublier ça. Ils ont aligné des gars contre un mur et tac, 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 à la mitraillette. Et ils ont recommencé. Tac, 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 tac. Ils en ont tué 43 des gars. La mitraillette pour tuer des jeunes. J'ai vu ça. Je ne vais jamais l'oublier. C'était des fascistes qu'on a exécutés comme ça, Giuseppe. Oui, des fascistes, mais la guerre était finie. Tu sais, c'était des jeunes. Le plus jeune avait 15 ans, je pense. Les autres, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Des gars qui ne réfléchissaient pas plus que ça. Des enfants. Tous tués. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils avaient rendu les armes. Ils croyaient qu'il ne leur arriverait rien, mais ils ont tous été abattus. Je n'oublierai jamais. Puis Pépé me raconte la suite. Mon père s'est retrouvé à garder ses prisonniers dans l'école où j'allais. Mon père n'avait pas fait la guerre. Il ne savait même pas tenir une arme. Il travaillait comme tailleur, comme cuisinier. Ils lui ont demandé de surveiller ses prisonniers. À un moment, un des prisonniers lui a dit qu'il voulait aller aux toilettes. Mon père lui a demandé s'il voulait vraiment aller pisser ou si, en fait, il voulait se sauver. Le gars lui a avoué qu'il voulait se sauver. Et mon père lui a montré un mur et lui a dit que ce n'était pas très haut, qu'il pouvait réussir à sauter et à partir. Je sais que mon père a sauvé comme ça un jeune gars parce que, des années plus tard, il est revenu au village pour remercier mon père, mais mon père était déjà mort. De nos jours, tout sent de nouveau la guerre. Les vieux malheurs de l'humanité, eux, repoussent plus facilement que des champignons, tant on les arrose de la prose de professeurs de haine. Giuseppe Marinoni et sa Simone ont reçu, il y a quelques jours, des médailles de l'Assemblée nationale. Pas pour avoir été des ambassadeurs de la guerre, mais pour avoir construit, pendant plus d'un demi-siècle, de jolis vélos artisanaux. Fidèle à lui-même, Pépé continue de penser que, si tout le monde roulait à vélo, l'humanité s'en porterait mieux. J'ai recommencé à faire du vélo stationnaire. Ça aide pour ma hanche. Tout le monde devrait faire ça. Je te jure, après le vélo, tu te sens toujours mieux. L'histoire ne roule jamais en ligne droite. Gino Bartali, le grand champion italien, sauva des centaines de Juifs sans jamais en parler, cachant de faux papiers dans le cadre de sa bicyclette pour les aider. Aujourd'hui, l'équipe cycliste Israël Premier Tech est huée par des manifestants à cause de la situation à Gaza. Ce qui nous rappelle que le sport, lui non plus, n'échappe pas aux guerres du présent. C'était « Le champignon de la guerre ». Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 8 septembre 2025 dans Le Devoir.